entamer aujourd'hui la deuxième séance du cycle de trois séances autour de ce thème général crise intellectuelle, morale et politique à gauche, donc qui explore l'état intellectuel, moral et politique des gauches aujourd'hui, la notion de crise visant à identifier un brouillage des repères à gauche sur ces différents plans. Ce brouillage des repères à gauche sur les plans de la morale, de la politique et du travail intellectuel est vu principalement sous un angle de philosophie politique, comme je l'avais annoncé lors de la première séance, mais une philosophie politique en dialogue avec les sciences sociales, la sociologie. Je rappelle un peu les pistes présenté la dernière fois, qui un peu donne un cadre général aux trois séances. Donc je situe mon propos dans ce que j'appelle la réinterrogation des logiciels de la critique sociale et de l'émancipation. Logiciel, ce vocabulaire informatique vise à identifier un niveau qui est peu exploré dans les milieux politiques et militants, c'est-à-dire le niveau de la formulation des problèmes et des questions, plutôt que les réponses immédiates, avec cette idée que dans la situation actuelle de redéfinition même de ce qu'on appelle la gauche, il est important de passer un peu de temps sur la réinterrogation de ces logiciels, la façon de formuler les problèmes et les questions, alors que tout le monde a tendance à se précipiter sur les réponses, et les réponses sont souvent générées par des logiciels assez stables, et donc les réponses se ressemblent assez, en fait, à travers le temps. Donc, réinterroger les logiciels de la critique sociale et l'émancipation. Critique sociale, la mise en évidence des dimensions négatives d'un ordre social sous l'aspect d'inégalité, de domination, d'exploitation, etc. Et puis, émancipation, pour dire le positif de ce décryptage du négatif. Émancipation étant vue, je l'ai dit, dans le sillage, disons, des Lumières, comme la construction d'une autonomie individuelle et collective, contre les dominations, s'arrachant aux dominations, et qui suppose une série de conditions sociales. Alors, pour aborder cette question du brouillage des repères à gauche, j'ai abordé la dernière fois les choses sous un double angle, l'angle des valeurs, encore des morales, et l'angle des conceptions de l'humain, ou donc ce que j'ai appelé des anthropologies philosophiques. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la question des conceptions de l'histoire, et la dernière séance sera plus directement politique avec, disons, la question qui est associée à un petit livre polémique publié l'an dernier, « La gauche est-elle en état de mort cérébrale ?» Alors aujourd'hui, sur la question de l'histoire, donc j'ai parlé la dernière fois de deux catégories de ce qu'on appelle présupposés. Présupposés éthiques, concernant les valeurs, présupposés anthropologiques concernant les conceptions de la condition humaine. Alors, pourquoi présupposés ? C'est des éléments qui contribuent à orienter la réflexion et l'action de manière implicite, sans nécessairement qu'on y réfléchisse. Présupposés au sens de l'idée que les choses sont posées avant d'y réfléchir. Souvent, donc, peu conscient de manière implicite, avec, l'idée qu'on peut être pris sur des rails, des automatismes. Donc j'ai parlé de logiciel, ça renvoie à peu près à une idée semblable. Alors, on ne peut pas, c'est un élément important, on ne peut pas éviter des présupposés quand on réfléchit et ou quand on agit. Car tout ne peut pas être tout le temps conscient, tout ne peut pas être tout le temps réfléchi à chaque instant. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des choses réfléchies, il faut quand même que d'autres choses ne soient pas réfléchies. C'est un élément assez important à noter parce que ça pose des limites toujours à la connaissance en situation. Celui qui a bien indiqué ça, c'est ce grand philosophe du XXe siècle, Ludwig Wittgenstein, dans un petit livre inachevé, son dernier livre de la certitude, et il parle de manière intéressante et métaphorique de gonds, G-O-N-D-S, comme les gonds d'une porte. Alors je cite ce que dit Wittgenstein, les questions que nous posons et nos doutes reposent sur le fait que certaines propositions sont soustraites aux doutes, sont pour ainsi dire comme des gonds sur lesquels tournent nos questions et nos doutes. Si je veux que la porte tourne, il faut que les gonds soient fixes. Donc, Ici, Wittgenstein nous dit qu'il faut qu'il y ait du présupposé pour qu'il y ait de la réflexion. Puisque la réflexion, elle tourne aussi sur du présupposé qui, au moment où on réfléchit, est fixe. Donc tout discours, toute réflexion suppose du non interrogé pour pouvoir simplement s'énoncer. Donc c'est un élément important par rapport parfois à la, une sorte d'arrogance de la pensée qui prétend pouvoir poser tous les problèmes en même temps. Et pouvoir déployer par exemple une sorte de doute illimité à chaque moment. Mais, alors, c'est important à noter, on peut interroger certains gonds, certains présupposés, mais pas tous en même temps. Bon, c'est ça la question. Pourquoi, afin de les aérer, afin de vérifier s'ils ne sont pas trop rouillés, si on ne devrait pas déplacer certains points d'appui de la réflexion et de l'action, etc. Donc c'est ce que j'ai fait la dernière fois avec certains présupposés éthiques et certains présupposés anthropologiques. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec les présupposés qui concernent les conceptions implicites de l'histoire. Alors pour thématiser les conceptions a priori de l'histoire et du temps, je vais parler de modèle d'historicité, c'est l'expression un peu technique que j'utilise, modèle d'historicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Un modèle d'historicité, c'est justement une certaine philosophie de l'histoire, le plus souvent implicite, qui va être portée par telle ou telle connaissance de la réalité sociale. Que ce soit d'ailleurs une connaissance savante systématique ou une connaissance de tout un chacun plus ordinaire et pratique dans la vie quotidienne. Il s'agit donc d'un ensemble de présupposés quant à la conception de l'histoire et à l'agencement des temporalités, c'est-à-dire comment on va nouer ou pas le passé, le présent et l'avenir. Ces modèles d'historicité, comme tout présupposé, tendent à préorienter la construction de notre regard sur la réalité. Alors, cette notion de modèle d'historicité que j'utilise, elle a un rapport avec une autre notion qui a été présentée par un historien français contemporain, François Hartog, dans un livre dont je vais reparler par la suite, « Régime d'historicité » de 2003, où François Hartog avance quant à lui la notion de régime d'historicité. Alors on peut penser que c'est pareil, c'est pas tout à fait pareil, mais ça avait des rapports, modèle d'historicité, régime d'historicité. La notion de régime d'historicité, je cite Hartog, vise les articulations du passé, du présent et du futur qui travaillent les représentations actives dans une société. On pourrait dire que la notion de modèle d'historicité constitue, on pourrait dire, une notion épistémologique qui est éclaire les rapports des différents modes de connaissance aux articulations passé, présent, avenir, alors que la notion de régime d'historicité est plus large, puisqu'elle concerne l'ensemble des représentations et des rapports au temps actifs dans une société. On pourrait dire que la notion de régime d'historicité englobe celle de modèle d'historicité, que modèle d'historicité, c'est une région des régimes d'historicité dans l'ordre de la connaissance. Alors, à partir des analyses de Hartog, on peut schématiquement distinguer au moins trois, il y en a plus, hein, mais au moins trois grands types de régimes d'historicité dans l'histoire occidentale. Ce qu'on pourrait appeler un régime d'historicité traditionnel, dont le repère principal est le passé, il s'agit de reproduire la tradition passée, une tradition passée. Un régime d'historicité qu'on va appeler moderne, dont le repère principal est le futur, avec les lumières du XVIIIe siècle, la notion de progrès. Et un régime d'historicité que identifie justement Hartog, dont je reparlerai, qu'on va appeler présentiste, dont le repère principal est le présent, qui serait un régime d'historicité montant dans les sociétés contemporaines. Et je m'arrêterai un peu plus dans la deuxième partie sur ce régime d'historicité. Donc, mon propos aujourd'hui aura donc trois moments principaux. Une analyse des apports et des limites du modèle d'historicité que je vais appeler linéaire évolutionniste. Puis, dans un deuxième temps, l'examen de la montée de ce qu'on appelle le présentisme. Et quelque chose qui est un vis-à-vis du présentisme, parfois chez les mêmes personnes que j'ai appelé le nostalgisme. Et puis, en troisième temps, je présenterai quelques pistes alternatives du côté de deux auteurs, Walter Benjamin et Daniel Ben Saïd. Alors, premier temps, dans ce que j'ai appelé les apports et les limites du modèle d'historicité linéaire évolutionniste. Donc, au régime d'historicité, hein, moderne des Lumières, celui du récit du progrès, correspond à un certain modèle d'historicité donc, que j'ai nommé linéaire évolutionniste, en mettant un tiret entre linéaire et évolutionniste. Pourquoi ? C'est-à-dire que l'histoire y est appréhendée comme le mouvement d'évolution linéaire déroulant de manière continue le passé, le présent et l'avenir. Ce modèle linéaire évolutionniste a fortement marqué les gauches, inscrites dans des logiques qu'on appelle souvent d'ailleurs progressistes, associées à la notion de progrès. Alors, parmi les sources intellectuelles des gauches, deux grandes modalités du schéma évolutionniste sont notamment présentes. On pourrait dire les formes les plus linéaires, les plus continuistes, parce que ça se déroule dans une continuité, avec soit une figure à la Révolution française comme Condorcet, soit au XIXe siècle, une des figures marquantes du socialisme républicain, Jean Jaurès. On a dans ces deux cas une figure plutôt enchantée du progrès, du récit du progrès. Et puis, dans un deuxième temps, on a une autre modalité qui apparaît au XIXe siècle, qui est, on pourrait dire, une façon de réintégrer les discontinuités au sein d'une évolution, dans une direction de l'histoire. C'est le cas de le plus marquant, le philosophe allemand Hegel, donc au XIXe siècle. Et à partir de Hegel, dans sa philosophie de l'histoire, avec des effets, en tout cas sur les textes les plus évolutionnistes de Marx. Les textes de Marx qui présentent l'histoire de l'humanité comme une succession de modes de production qui ont souvent été repris par la littérature marxiste, même si ces textes sont très peu important chez Marx, c'est des textes assez limités, il n'y a pas beaucoup de pages qui est centrées sur ces questions, mais ça a beaucoup obnubilé davantage les marxistes. Dans le cas de Hegel ou de Marx, dans ce Marx évolutionniste, on pourrait dire qu'il y a des discontinuités, notamment des violences, il y a des dimensions tragiques dans l'histoire, mais elles sont récupérées par l'évolution, on pourrait dire. C'est-à-dire, ce sont des étapes provisoires vers le progrès. Ce sont deux modalités, disons, de ce schéma linéaire évolutionniste, disons, le schéma Condorcet-Jaurès et le schéma Hegel-marxiste. Alors, le modèle linéaire évolutionniste a aussi marqué les sciences sociales contemporaines avec une modification de taille, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'attribuer une direction nécessaire à l'histoire, le progrès, mais on aurait une forme, disons, plus soft, scientificisée du modèle linéaire évolutionniste, qui reste basé, même s'il n'y a pas de direction nécessaire à l'histoire, reste basé sur une vision implicite d'une succession lisse, linéaire, du passé, du présent et de l'avenir. Alors, je prendrai un exemple des apports et des limites de ce modèle linéaire évolutionniste dans les analyses des sciences sociales, parce que ça a été marquant, disons, à partir des années 90, et c'est un courant qui reste marquant intellectuellement aujourd'hui, en tout cas en France. C'est ce qu'on appelle, disons, depuis le début des années 90, en France, la socio-histoire, en mettant un tiret entre socio et histoire. La figure marquante, disons, l'auteur marquant de ce courant, qui est au carrefour de la sociologie et de l'histoire, est un historien qui s'appelle Gérard Noiriel. Ce courant se propose souvent de reconstituer la genèse d'eux. Alors, la genèse des classes sociales et des groupes sociaux, la genèse des institutions, la genèse des visions du monde, des règles, des comportements, etc. C'est pour ça qu'on parle de schéma génétique. Il s'agit de reconstituer la genèse de quelque chose qui existe aujourd'hui. D'ailleurs, la revue qui exprime ce courant a pour nom Genèse, elle est sous-titrée Sciences sociales et histoire, Genèse au pluriel, et elle est née, elle marque le début du courant, on pourrait dire, puisqu'elle est née en septembre 1990. Quels sont les apports principaux de ce courant pour éclairer la réalité sociale? Gérard Noiriel l'explique dans un de ses livres, je cite, « Le socio-historien veut mettre en lumière l'historicité du monde dans lequel nous vivons pour mieux comprendre comment le passé pèse sur le présent. » Comment le passé pèse sur le présent. C'est dans cette démarche qu'un certain privilège, qui n'est pas exclusif d'autres modalités, est accordé à la démarche génétique, à la genèse d'eux. On va faire la genèse de la famille, par exemple, on va faire la genèse de telle loi. Adossé à ce qu'on va appeler une méthode régressive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méthode régressive? C'est-à-dire qu'on va revenir en arrière pour ensuite reconstituer la genèse d'eux. Donc, il y a une dimension régressive et génétique dans cette analyse de l'histoire. C'est une méthode, on pourrait dire, qui remonte le cours naturalisateur du temps. Pourquoi naturalisateur du temps? C'est-à-dire que des réalités qui se donnent comme, de prime abord comme naturelles, ben, comme le marché, comme l'État, comme la famille, etc., on va remonter le cours du temps et on va s'apercevoir que finalement il y a eu un processus historique qui a donné naissance à ces formes, à ces institutions, qu'elles n'ont pas toujours existé, alors que quand on les a sous les yeux, on a l'impression qu'elles sont naturelles. Bon. C'est une méthode qui remonte le cours naturalisateur du temps en éclairant la genèse historique de telle ou telle réalité sociale qui peut se présenter comme naturelle, sur le mode un peu de choses intemporelles et unifiées. La socio-histoire, c'est alors une variété de recherches, soit en sciences politiques, en sociologie, en histoire notamment, de recherches, de chercheurs. Ces chercheurs développent, par exemple, si on prend le cas de la science politique, qui est ma discipline, disons, de référence, ils développent une démarche assez intéressante par rapport à des objets de la science politique traditionnelle. La science politique traditionnelle va manier souvent ces objets comme des fétiches. Ça va être la politique ou le politique. On aura des différences dans les définitions. L'État, les institutions, le droit, le vote, la démocratie, les partis, les idéologies politiques, les politiques publiques, etc., etc. On a toute une série de catégories de la science politique traditionnelle ou même contemporaine qui ont tendance à être pris comme des fétiches. C'est-à-dire, on les voit souvent de manière qu'on dit essentialiste, essentialiste de essence, c'est-à-dire comme des réalités homogènes et durables. Alors que la socio-histoire va réinsérer ces objets dans le cours d'une histoire, va montrer que ces objets, la démocratie, le vote, par exemple, ont une histoire, que cette histoire est liée à une pluralité d'usages qui ont présidé à son émergence. Des usages qui peu à peu vont déplacer. C'est-à-dire que le vote au cours de la Troisième République, c'est pas exactement les mêmes pratiques que le vote aujourd'hui, par exemple. Alors, Gérard Noyelle lui-même a beaucoup contribué à donner une consistance empirique et théorique à la socio-histoire. Je renvoie par exemple à un recueil, pour ceux qui s'intéressent à cette démarche, un recueil intéressant d'articles de 2001 sous le titre « État-nation et immigration » où on va voir une palette de ses travaux sur cette question, les travaux sur la classe ouvrière, sur l'immigration, sur la nation, sur l'État républicain notamment. Mais en sciences sociales, comme dans tout mode de connaissance, les apports se payent toujours de limites. Donc il faut toujours penser les apports en rapport avec des limites aussi. Et donc c'est ce que je vais appeler le côté obscur de la force socio-historique, et qui a à voir avec la prégnance du modèle d'historicité linéaire évolutionniste dont je vous ai parlé. Alors, il s'agit maintenant d'interroger de manière critique ce modèle linéaire évolutionniste. Alors, ce modèle linéaire évolutionniste a d'abord été critiqué notamment au sein de ce qu'on appelle la théorie critique, ou encore école de Francfort, c'est-à-dire c'est une série de travaux philosophiques et sociologiques qui émerge en Allemagne dans les années 1920, notamment à Francfort, donc l'idée de l'école de Francfort, avec des auteurs comme Théodore Adorno, et qui s'inscrivent dans la logique à l'époque d'un marxisme plutôt hétérodoxe. Alors, ce qui va être mis en cause dans l'école de Francfort, dans le schéma linéaire évolutionniste, c'est la figure hard de ce schéma, c'est-à-dire le schéma d'un progrès nécessaire. C'est la première figure. Alors, un des premiers à le faire avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un écrivain et un philosophe qui est plutôt périphérique par rapport à l'école de Francfort, mais dont je reparlerai après parce qu'il est important pour moi pour formuler des pistes alternatives, c'est Walter Benjamin. Walter Benjamin, notamment donc dans ses thèses sur un court texte sur le concept d'histoire qui a été écrit en 1940, quelques mois avant son suicide, à la frontière franco-espagnole, juif, il fuyait le nazisme et il va se suicider à la frontière franco-espagnole. Benjamin, dans les thèses sur le concept d'histoire, l'événement nazisme, puisqu'on est confronté à l'événement nazisme à l'époque, met à bas, selon lui, la croyance progressiste qui dominait alors la gauche, en tout cas le courant dominant de la gauche qu'on appelait la social-démocratie, et particulièrement dans son pays la social-démocratie allemande. C'est la croyance en un progrès nécessaire, même qui aurait contribué à désarmer le mouvement ouvrier face au nazisme. Pourquoi ? Parce qu'elle aurait contribué à rendre le nazisme un événement impensable dans la croyance d'un progrès nécessaire. C'est ce que dit par exemple Benjamin dans sa thèse 8. La tradition des opprimés nous enseigne que l'état d'exception dans lequel nous vivons est la règle. Nous devons parvenir à une conception de l'histoire qui rende compte de cette situation. Ce que nous pensons être l'exception, le nazisme. Et nous consoliderons ainsi notre position dans la lutte contre le fascisme. Celui-ci garde au contraire toutes ses chances face à des adversaires qui s'opposent à lui au nom du progrès, compris comme norme historique. C'est le cas de la social-démocratie allemande. S'effarer que les événements que nous vivons soient encore possibles au XXe siècle, c'est marquer un étonnement qui n'a rien de philosophique. Un tel étonnement ne mène à aucune connaissance, si ce n'est à comprendre que la conception de l'histoire d'où il découle n'est pas tenable. Bon. L'idée, la croyance dans un progrès nécessaire qui a marqué la gauche, bute pour Benjamin contre le nazisme et désarme même la gauche face au nazisme parce qu'elle rend cet événement barbare impensable. Bon. Dans le cadre de la croyance dans un progrès nécessaire. Ce qui oblige à abandonner pour Benjamin cette conception progressiste de l'histoire, d'un progrès nécessaire. Alors, je reparlerai de Benjamin et de ses thèses sur l'histoire dans la troisième partie, du côté des pistes alternatives. Bien après Benjamin, on retrouve une des figures marquantes de l'école de Francfort, Théodore Adorno, qui va aussi tirer une certaine série de leçons du nazisme, mais pas seulement du nazisme, du stalinisme aussi. On est bien après, on est en 1966 dans un livre qui s'appelle Dialectique négative. Et Adorno écrit « Affirmer qu'un plan universel dirigé vers le mieux, un plan universel dirigé vers le mieux, c'est la croyance dans le progrès, affirmer qu'un plan universel dirigé vers le mieux se manifeste dans l'histoire et lui donne sa cohérence serait cynique après les catastrophes passées et face à celles qui sont à venir. » Affirmer qu'un plan universel dirigé vers le mieux se manifeste dans l'histoire et lui donne sa cohérence serait cynique après les catastrophes passées, je pense notamment au nazisme et au stalinisme, et face à celles qui sont à venir. Donc on a un premier type d'attaque ici contre le modèle linéaire évolutionniste, mais c'est le modèle hard, celui qui est basé sur la croyance d'un progrès nécessaire, dans l'école de Francfort. Mais les formes soft du modèle linéaire évolutionniste, sans la nécessité du progrès, mais avec une forme d'évolution linéaire du temps, comme on l'a vu dans la socio-histoire, peuvent être aussi interrogées, pas seulement la forme hard, mais la forme soft. C'est ce qu'on peut faire, par exemple, à partir d'une problématique particulière, différente de celle de l'école de Francfort, qui est celle du philosophe Michel Foucault en France, dans une démarche qui va être inspirée au croisement à la fois de Nietzsche et d'une démarche historique, puisque Foucault était un philosophe, mais qui travaillait aussi sur des archives avec des méthodes qui étaient celles aussi des historiens. Ici, il y a un texte intéressant de 1971 qui s'appelle Nietzsche, la généalogie et l'histoire. Alors, plutôt qu'une invalidation définitive du modèle linéaire évolutionniste soft qu'on trouve par exemple dans la socio-histoire, la critique foucauldienne pourrait constituer une incitation à prendre en compte d'autres modalités du rapport à l'histoire et au temps. En particulier sur deux axes. Premier axe, l'injonction de Michel Foucault, c'est de repérer la singularité des événements. Bon. C'est quelque chose que ne permet pas de bien voir le modèle linéaire évolutionniste, qui a une vision, on pourrait dire, quantitative du temps, où il y a une circulation passé, présent, avenir, où une seconde vaut une seconde, d'une certaine façon, une minute vaut une minute, ou une année vaut une année. Bon. Donc, repérer la singularité des événements, et dans la singularité des événements, nous dit Foucault, l'aléa singulier de l'événement, c'est-à-dire l'incertitude, l'aléatoire. Bon. Premier élément, bon, important. Deuxième élément de la critique foucauldienne d'ouverture, être attentif aux discontinuités. C'est-à-dire au fait qu'il n'y a pas simplement un mouvement continu de l'histoire, mais aussi il y a des ruptures. Bon. Et ces ruptures ne sont pas, comme dans le schéma hegelien, nécessairement récupérées dans une évolution. Ces pistes de Michel Foucault visent plutôt à nourrir d'autres modèles d'historicité plutôt qu'à invalider le modèle linéaire évolutionniste. Alors, un premier type de critique ou d'ouverture qu'on peut faire par rapport à la version soft type socio-histoire du modèle linéaire évolutionniste. Deuxième critique, on le verra à partir sur le terrain d'une sociologie empirique, là, de la vie quotidienne, en puisant des ressources chez un sociologue de la vie ordinaire qui est Jean-Claude Kaufmann. Jean-Claude Kaufmann, certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est connu pour avoir travaillé des objets extrêmement quotidiens de la vie quotidienne dans tout son travail depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et ça a commencé par la question d'analyser les couples en analysant leur linge, et ça a été aussi les seins nus sur les plages, les agacements quotidiens dans les couples, par exemple le dentifrice qui sort du tube de dentifrice, des choses comme ça, bon, ou les cheveux qui sont à un endroit, etc. Les agacements les plus quotidiens dans le couple, très intéressant. La question du rapport au travail ménager, notamment il y a des très belles analyses sur le repassage, bon, chez Kaufmann, et il ouvre la question du temps et de l'histoire dans un livre qui s'appelle « Premier matin » de 2002, où il s'intéresse à un autre de ses objets quotidiens, c'est-à-dire le premier matin amoureux dans la relation entre une personne après une nuit d'amour, le premier matin. Bon. Et il y a une analyse un peu systématique à partir d'entretiens sur ce premier matin. De ces analyses, Kaufmann va tirer des conséquences intéressantes. Il va indiquer qu'ils vont venir en décalage par rapport à la tendance du modèle linéaire évolutionniste. Il arrive que les longues et lentes trajectoires biographiques croisent des micro-événements capables de les ébranler. Il arrive que les longues et lentes trajectoires biographiques croisent des micro-événements capables de les ébranler. Alors, pourquoi ça introduit un petit décalage? C'est que, dans le modèle linéaire évolutionniste, les choses évoluent du passé, présent, avenir. Chaque seconde va chaque seconde, chaque moment va chaque moment, et donc il y a un poids particulier du passé sur ce qui va, disons, advenir dans le présent et dans l'avenir, bon, dans ce mouvement linéaire. C'est-à-dire, ce qui émerge, disons, à un moment donné, est une sorte de produit de l'évolution plus ou moins lente du passé. Or là, Kaufmann nous dit que des espèces d'évolutions lentes, comme ça, dans l'histoire biographique d'une personne, vont être perturbées par quelque chose de microscopique. C'est-à-dire des micro-événements, notamment dans ce type de rencontre amoureuse. Et donc il a introduit l'idée de la nécessité d'avoir un autre point d'appui pour traiter des événements que le modèle linéaire évolutionniste qui, on l'a vu avec Foucault, maltraite un peu les événements, ou en fait simplement le produit d'une longue évolution. Bon. Par analogie, par exemple, si on prend les objets plus classiques de l'analyse politique, de la science politique, comme les mobilisations collectives, il serait intéressant, de ce point de vue, d'éclairer la place des micro-événements dans l'analyse des mobilisations collectives. Par exemple, le rôle, par exemple, de l'humiliation policière et de l'immolation par le feu de Mohamed Bouazi à Sidi Bouzid en Tunisie, au début de ce qu'on a après, les révolutions arabes ou les printemps arabes, et voir ça par rapport aux évolutions structurelles de la société tunisienne. Le modèle linéaire évolutionniste ne serait attentif essentiellement qu'aux évolutions lentes des structures de la société tunisienne. Et de ce point de vue, a du mal à saisir, pourtant, qu'est-ce qui se passe à travers un événement comme ça, qui peut avoir un poids, hein. C'est l'équivalent, disons, de la rencontre amoureuse pour Kaufmann. Ça n'élimine pas la question du poids de la socialisation et du temps long, mais ça crée comme une interférence que ne permet pas bien de penser le modèle linéaire évolutionniste. En fait, on observe dans le modèle d'historicité linéaire évolutionniste qui est actif dans la socio-histoire des écueils tendanciels qui sont associés à ces points forts. C'est souvent ça dans la connaissance, c'est-à-dire les limites vont avec les points forts et les écueils vont avec les points forts. Premièrement, il privilégie la durée sur l'instant, c'est la durée qui compte le plus, et donc il tend à écraser l'événement. Deuxièmement, les continuités ont tendance à l'emporter sur les ruptures. Et donc il y a ces deux tendances que viennent, disons, mettre en cause les interrogations, que ce soit de Foucault ou nées du travail d'enquête de Jean-Claude Kaufmann. Cette critique ne vise pas à se passer d'éclairages nourris qui sont nourris par ce modèle linéaire évolutionniste, mais nous invite à ne pas se limiter à ces éclairages, en les ouvrant à d'autres visions de l'histoire, à d'autres visions de l'articulation des temporalités, plutôt que cette seule vision linéaire évolutionniste qui, à force de rentrer dans l'habitude, on finit par considérer que c'est la seule. Bon, hein. Et donc, elle finit aussi peu à peu par être présentée comme naturelle. Et c'est souvent le cas de chercheurs qui travaillent dans cette logique. Hein. Et elle finit par être naturelle, comme si c'était le seul mode de rapport à l'histoire possible. Ici, j'ai une démarche assez proche de ce que j'avais dit la dernière fois à propos des anthropologies philosophiques. Il s'agit non pas d'évacuer définitivement une anthropologie philosophique, mais d'ouvrir à d'autres éclairages qui sont nourris d'autres anthropologies philosophiques. Ici aussi, il s'agit de nourrir d'autres rapports à l'histoire. Alors, c'est le premier temps de cette interrogation, les apports et les limites de ce modèle linéaire évolutionniste qui est très marquant à gauche parce que la gauche l'a hérité de la tradition progressiste, de cette idée du progrès. Et ce modèle chemine encore aujourd'hui dans des modes de connaissance qui sont encore assez actifs dans les sciences sociales et dans les sciences sociales critiques aujourd'hui, à travers, par exemple, l'exemple que j'ai donné de la socio-histoire. Alors, je voudrais fournir maintenant un deuxième temps, c'est ce que j'ai appelé un deuxième éclairage, la montée du présentisme et son vis-à-vis nostalgiste. Pour donner un deuxième éclairage sur ce problème du rapport au temps. Le régime d'historicité que François Hartog appelle le présentisme, hein, dont j'ai parlé dans l'introduction, va nous apporter une autre série de problèmes. Et une série de problèmes qui va percuter particulièrement les gauches. Alors, c'est toujours dans ce livre hein, que Hartog a intitulé « Régime d'historicité ». Donc, le présentisme, ça serait un nouveau régime d'historicité qui émergerait aujourd'hui. Je cite Hartog, cela vise un présent monstre. Il est à la fois tout, il n'y a que du présent et presque rien, la tyrannie de l'immédiat. En fait, le présentisme, ce serait une sorte d'enfermement dans un présent de plus en plus déconnecté, à la fois du passé comme du futur. Une sorte de présent autosuffisant, de plus en plus omniprésent, omnipotent. Hein, il est tout et presque rien. Bon. C'est une sorte de culte implicite d'un présent perpétuel, sans arrêt recommencé et constamment décevant. Et ce présentisme, nous dit Hartog, contaminerait à la fois le rapport au passé et le rapport à l'avenir. Hartog avance, le présent s'est étendu tant en direction du futur que du passé. Il contamine à la fois le passé et le futur. Le futur tendrait à être mangé par le présent, parce qu'à ce rythme effréné d'un nouveau présent toujours plus présent, d'un nouveau toujours plus nouveau, on ne voit pas comment on aurait le temps de fixer des repères dans l'avenir, c'est-à-dire que peu à peu l'avenir disparaît. L'avenir est toujours immédiat, c'est le dernier nouveau auquel succède un autre nouveau par la suite. Et le passé serait lui-même absorbé par le présent. Par exemple, c'est la manie aujourd'hui des commémorations qui sont une façon de digérer le passé dans le présent. Hein, c'est l'année Brassens, c'est l'année Camus, etc. C'est toute une série de façons d'absorber, disons, le passé dans le présent encore. Et le présent dedans omniprésent. On aurait alors une configuration qui se distinguerait tant du rapport traditionnel au temps, où le passé constituait la boussole principale, que du rapport moderne au temps, où l'avenir constituait la boussole principale. Et ce rapport au temps, centré sur un présent de plus en plus, disons, omniprésent, un présent qui est de l'ordre de l'immédiateté, constamment renouvelé, ce rapport au temps apparaît ajusté au capitalisme contemporain et à sa logique néolibérale, c'est-à-dire au mouvement perpétuel de développement du marché, d'expansion de la marchandise, accompagné d'ailleurs de la logique de la publicité qui accompagne ce mouvement de la marchandise. Alors, Pour Hartog, le présentisme, c'est quelque chose qui tend à devenir dominant dans le rapport, c'est son hypothèse en tout cas, dans le rapport actuel, autant dans les sociétés contemporaines, en tout cas occidentales. En fait, mon point de vue, c'est qu'il faudrait mieux localiser ce présentisme. Ce n'est pas, à mon avis, le rapport exclusif ou dominant du rapport au temps aujourd'hui. Pour moi, c'est un des rapports montants au temps, c'est-à-dire qui est en développement, mais ce n'est ni le rapport exclusif, ni le rapport principal. Mais c'est une tendance, en tout cas principale, dans une série de secteurs. Hein. En particulier le champ économique, justement sous la contrainte de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Du côté des logiques publicitaires et médiatiques, où ce rythme de l'immédiateté est très présent, les usages dominants d'Internet, ou l'univers des professionnels de la politique lui-même, sous pression médiatique souvent. Toutefois, quand on fait une enquête sociologique, par exemple, et beaucoup d'enquêtes sociologiques montrent que quand on analyse ce rapport au temps dans la vie quotidienne de nos sociétés, il est beaucoup plus pluriel, c'est-à-dire qu'il y a une diversité de rapports au temps dans la vie quotidienne. Donc, ce serait excessif de considérer que c'est devenu le rapport dominant tout le temps. Bon. On peut garder l'hypothèse que c'est une tendance montante dans nos sociétés, bon. Et notamment dans certains secteurs. Alors, ce qui nous intéresse ici, puisqu'il s'agit de parler de la gauche, c'est que c'est une tendance montante dans les milieux militants de gauche aussi. On pourrait dire que dirigeants et militants de gauche apparaissent souvent ainsi happés par différentes urgences, différentes immédiatetés, et de plus en plus, disons, dans une quête constante du nouveau. Nouveau qui est lui-même célébré par les médias, mais au nouveau auquel succède un nouveau nouveau, bon, toujours. Un jour c'est Ségolène Royal, un jour c'est Beauvais, un jour c'est Besancenot, un jour c'est DSK sauveur de la gauche, un jour c'est DSK menotté, un jour c'est Montebourg, un jour c'est Hollande, un jour c'est Mélenchon, etc. etc. Bon. Un jour c'est les Roms de Sarkozy, un jour c'est la Tunisie révolutionnaire, un jour c'est Fukushima, un jour c'est la Libye de BHL, un jour c'est la Tunisie islamiste cette fois-ci, elle a changé de ton, un jour c'est la Syrie ensanglantée, un jour c'est la Syrie islamiste, un jour c'est les Roms de Valls, c'est plus les Roms de Sarkozy, et un jour c'est la Turquie rebelle aux islamistes, etc. etc. Bon. Et les militants des mouvements sociaux eux-mêmes apparaissent fréquemment pris dans des logiques similaires de zapping continu. Donc un jour c'est les retraites, un jour c'est gaz de schiste, un jour c'est le nucléaire, un jour c'est les indignés, un jour c'est l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, etc., etc., dans une sorte de zapping continu, sans guère d'évaluation critique des difficultés du passé, ni projection claire dans un avenir différent, puisqu'on passe d'un élément à l'autre, on saute d'un élément à l'autre en général. On pourrait dire que l'attention saute, à la fois l'attention des milieux militants et l'attention des médias. De ce point de vue, d'ailleurs, les milieux militants critiques ressemblent beaucoup aux médias, qui passent leur temps à critiquer, mais ils ont une vision assez similaire, bon, enfin, un mouvement assez similaire dans la façon de sauter de nouveau en nouveau. Bon. Alors, ce présentisme suscite une sorte de vis-à-vis qui est présent en même temps, cette tendance présentiste. C'est ce que j'appelle le nostalgisme. Bon. Le nostalgisme, on pourrait dire, c'est en quelque sorte la présence du régime d'historicité traditionnelle, hein, je rappelle la reproduction bénéfique de la tradition passée, mais dans les temps actuels, sous la forme alors d'une nostalgie. Nostalgie qui est stimulée par la crise du progrès et de l'avenir. Le nostalgisme, alors, c'est la nostalgie d'un passé fantasmé. C'est le « c'était mieux avant ». Le c'était mieux avant d'Alain Finkielkraut, parce que c'est sans doute la figure la plus connue du c'était mieux avant, mais aussi c'est le c'était mieux avant de Jean-Claude Michéa dans la philosophie, c'est le c'était mieux avant d'Alain Badiou, c'est le c'était mieux avant de nombreux détérioralistes dans les médias. Mais c'est quelque chose de fort actif aussi dans les milieux militants, par rapport notamment à ce dont j'ai parlé la semaine dernière. Les présupposés, la nostalgie de la croissance, par exemple, ou aujourd'hui, très fort, la nostalgie de la nation. On pourrait penser que le poids des générations plus âgées sur les milieux militants, en France particulièrement, a sans doute un effet dans cette tendance où c'était mieux avant. On pourrait dire que le présentisme et le nostalgisme peuvent être d'ailleurs présents chez les mêmes personnes à des moments différents, hein, c'est pas exclusif. Bon. Chacun d'entre nous peut à un moment donné être dans le c'était mieux avant ou dans le culte pratique de l'immédiateté. Mais d'une certaine façon, c'est une autre façon de paralyser l'action. Ce n'est pas l'espèce de surplace du présentisme, dans l'immédiateté sans arrêt renouvelée, mais c'est une sorte de contemplation d'un passé mythifié qui, comme le présentisme, ne permet pas vraiment de scoltiner les défis du présent. C'est deux modalités d'une difficulté à scoltiner les défis du présent, le présentisme et le nostalgisme, dans la conscience contemporaine. Alors, sur cette question du rapport au temps et de la situation de la gauche, on a vu un modèle très prégnant à gauche, le modèle linéaire évolutionniste, le progrès. On a vu deux, historiquement dans l'héritage de la gauche, on a vu deux tendances assez récentes, qui sont plus ou moins composées, le présentisme et le nostalgisme. Alors, je vais essayer pour terminer de présenter, disons, des pistes alternatives par rapport à les problèmes que rencontrent soit le modèle linéaire évolutionniste, soit à la fois le présentisme et le nostalgisme. Donc on pourrait dire que le modèle d'historicité linéaire évolutionniste, autour de la figure du progrès, le présentisme et le nostalgisme constituent trois modalités du rapport à l'histoire et au temps assez présentes à gauche, aujourd'hui, avec des compositions variables, on pourrait dire, en fonction des organisations, des personnes et des contextes. J'ai dit que ça pouvait être chez les mêmes personnes. Alors, on a à la fois rencontré certaines limites du modèle d'historicité linéaire évolutionniste, qui permet mal de penser à la fois les ruptures et les événements. Et on a rencontré certaines impasses à la fois du présentisme et du nostalgisme. Donc, ça appelle une des reformulations dans notre rapport à l'histoire et aux temporalités. Et c'est là où je vais essayer de formuler quelques pistes à partir de, principalement, deux auteurs, Walter Benjamin et dans son sillage, Daniel Ben Saïd, donc un philosophe et militant révolutionnaire, lui, contemporain. Et on va formuler ces pistes pas seulement sur le plan de la connaissance sociale, comme on l'a vu avec la socio-histoire, mais aussi sur le plan de la vision de la cité, donc sur le plan de la philosophie politique. En fait, on pourrait dire que Benjamin et Ben Saïd nous permettent d'envisager une nouvelle alliance entre passé, présent et avenir. C'est ça qui est en jeu, à mon avis. Alors, je vais présenter que quelques-unes des pistes qui peuvent être disponibles à partir de ces deux auteurs. Alors, je l'ai dit, Benjamin, c'est ce texte sur le concept d'histoire, écrit en 1940, quelques temps avant son suicide. Et ce texte se situe dans le rapport à l'histoire entre deux choses qui ne sont pas habituellement associées. D'un côté, un messianisme juif, disons, laïcisé, et puis de l'autre côté, un marxisme hétérodoxe. C'est de la rencontre de la tradition juive messianique et d'un marxisme hétérodoxe que va naître cette nouvelle conception de l'histoire que propose Benjamin et qui se situe clairement en rupture avec une vision linéaire évolutionniste du temps. Car, on pourrait dire, cette vision linéaire du temps le réduit à un mouvement lisse enchaînant passé, présent et avenir, sans rupture ni événement qualitativement différent. Donc, où je l'ai dit, où chaque minute vaut chaque minute, chaque seconde vaut chaque seconde, chaque jour vaut chaque jour, chaque année vaut chaque année, d'une certaine façon. C'est ce que Benjamin, justement, il a une expression intéressante pour identifier le modèle linéaire évolutionniste. Il parle de temps homogène et vide. Le temps homogène et vide. Et ce temps homogène et vide a souvent été celui de la vision progressiste de l'histoire, de l'histoire comme progrès nécessaire et continu. On a vu la critique qu'il fait de la social-démocratie allemande à son époque. Cette vision l'aurait désarmé face, disons, au nazisme. En tout cas, désarmé intellectuellement. Benjamin va proposer deux choses. Alors, d'abord, il va proposer une réévaluation de la tradition, du passé. Et là, c'est une rupture avec la vision moderne du temps, avec la vision des Lumières du XVIIIe siècle, avec la vision progressiste. C'est-à-dire que, souvent, dans la vision progressiste, le passé, c'est le lieu du préjugé, de la tradition avec laquelle il faut rompre, pour rompre avec les préjugés. La vérité étant dans l'avenir, dans le progrès, qui nous permet de nous débarrasser des préjugés. Benjamin, lui, va réévaluer la tradition, le passé, mais pas n'importe quelle tradition, c'est ce qu'il appelle la tradition des opprimés. Qu'est-ce que c'est que la tradition des opprimés? C'est les voies VOIX et les voies VOIES passées de l'émancipation dans l'histoire des peuples, des sociétés humaines, qui ont échoué à un moment donné et qui ont été oubliées. Il y a beaucoup d'histoires, disons, les peuples se sont souvent révoltés contre l'oppression, il y a toute une histoire de l'émancipation, mais ces chemins de l'émancipation qui ont échoué ont souvent été, disons, oubliés en chemin, en cours de route. Et c'est cette tradition des opprimés qu'il faut réévaluer selon Benjamin. Et donc pour lui, la tradition n'est pas simplement un obstacle à l'émancipation, comme dans la logique des Lumières, mais la tradition est un enjeu de lutte entre l'émancipation et le conservatisme. Je cite une de ses thèses, « À chaque époque, il faut chercher à arracher de nouveau la tradition au conformisme qui est sur le point de la subjuguer. » À chaque époque, il faut chercher à arracher à nouveau la tradition au conformisme qui est sur le point de la subjuguer. La tradition, elle est un enjeu entre le conservatisme qui va se servir de la tradition pour reproduire un certain ordre social, des inégalités, des dominations, etc. Et puis, l'émancipation qui a existé dans la tradition aussi, et qui a été oubliée. Bon. Donc la tradition n'est plus simplement le poids mort du passé, dont il faut se débarrasser, comme dans la logique des Lumières, mais un enjeu de lutte contradictoire. Alors, premier élément. Deuxième élément, cette réévaluation de la tradition n'est pas tournée uniquement vers un culte nostalgique du passé, chez Benjamin. C'est plutôt une façon de puiser des ressources dans le passé pour tenter d'ouvrir un avenir différent, un avenir émancipateur. Alors, cela suppose certes une mémoire, mais une mémoire sélective et critique. En fait, Benjamin propose une alliance inédite entre le passé et l'avenir pour casser d'une certaine façon les évidences du présent oppresseur, la situation telle qu'elle existe dans le présent. Mais cette alliance du passé et de l'avenir, de la tradition et de l'avenir, va mobiliser d'une certaine façon le présent à travers ce qu'il appelle des à-présents, A avec un accent tiré présent. Pourquoi parler d'à-présent? Mais c'est à présent, il faut agir, hein, il faut saisir l'occasion. Bon. L'à-présent, c'est la possibilité de saisir à un moment donné une possibilité, bon, à présent. Contre un présent qui est simplement la reproduction du passé oppresseur. Bon. L'à présent, c'est l'occasion des possibilités émancipatrices de ressurgir. Ici, il y a une importance, pourquoi avoir été cherché du côté du messianisme juif, il y a une importance de la tradition messianique juive, pourquoi? Je cite encore Benjamin, « L'avenir ne devenait pas pour autant, aux yeux des Juifs, un temps homogène et vide, car en lui, à chaque seconde, était la porte étroite par laquelle le Messie pouvait rentrer. » Il n'y a pas l'idée d'un mouvement linéaire évolutionniste où, disons d'une certaine façon, la rédemption vient à la fin, au bout de l'histoire, mais il y a l'idée que c'est à chaque moment de l'histoire que le Messie de surgir, bon, qui a la possibilité de surgir du Messie dans la théologie juive. Bon. Et donc, le Messie, pour Benjamin, c'est la révolution ou l'événement radical qui peut surgir et remettre en jeu la question de l'émancipation. Bon. Pour saisir bien cette figure, j'utilise souvent une chanson de Charles Aznavour qui, de 1971 qui s'appelle « Non, je n'ai rien oublié », qui raconte l'histoire amoureuse entre un homme et une femme qui ont été séparés dans leur jeunesse par leurs parents, qui n'ont pas pu se marier, puis qui, 10-20 ans après, se rencontrent de nouveau par hasard dans la rue. Et à un moment donné, Aznavour synthétise en une formule assez remarquable la pensée de Benjamin, sans savoir qu'il synthétise la pensée de Benjamin. Il dit, « Et mon passé revient du fond de sa défaite. » Et mon passé revient du fond de sa défaite. C'est-à-dire que la défaite du passé, c'était cet amour qui n'avait pas pu aboutir. Et puis il y a un événement, comme impromptu qui arrive et qui permet de faire ressurgir de manière possible une autre possibilité d'amour dans l'avenir, si on sait le saisir ou pas, et c'est pas obligatoire. Bon. Et il y a quelque chose comme ce que Benjamin appelle un « à présent », que thématise Aznavour ici. Alors, c'est à partir de là que Daniel Ben Saïd, donc dans l'époque contemporaine, va poursuivre Benjamin, notamment dans un de ses livres les plus intéressants de 1990, qui s'appelle « Walter Benjamin, sentinelle messianique à la gauche du possible », qui a été réédité il y a 2 ans. Alors, Ben Saïd se situe bien dans la logique de la critique de Benjamin. Hein. Par exemple, l'histoire n'obéit pas aux fausses évidences chronologiques, c'est pas la chronologie qui explique complètement, c'est qui va nous rendre compte du temps. Et il va donner d'ailleurs une figure amusante qui renvoie à deux figures du roman noir américain, du polar, puisqu'il salue Benjamin, alors je cite, « confiant dans un messie rusé qui aurait, à la manière sans gêne d'un Marlowe ou d'un Sam Spade, glissé son pied dans l'entrebâillement de la porte, dans les battants entrouverts du possible. » Bon, c'est ça, saisir l'occasion dans la présence. Alors pour Ben Saïd, c'est... Cette nouvelle lecture de l'histoire a besoin d'une raison, d'une analyse raisonnée. Bon. Pour Ben Saïd, il ne s'agit pas complètement d'éteindre les Lumières, puisqu'on a vu qu'il y avait une rupture avec le mouvement des Lumières, mais il faut plutôt reformuler les Lumières ou les redessiner. Et Ben Saïd avance, appelons messianique cette raison ouverte à l'aléatoire, hein, une raison ouverte à l'aléatoire. Donc c'est toujours une raison d'une certaine façon, mais une raison qui s'est redéfinie. Une telle raison messianique n'impliquerait pas de rupture avec la perplexité face à l'histoire, mais contiendrait la perplexité en même temps. Il y a un passage très intéressant de Benjamin où il dit « Moment incertain, présent perplexe, assailli par un passé intarissable qui délivre par saccade et par embardée, pêle-mêle ses vérités censurées et ses douteux fantasmes. » Donc il s'agit de se coltiner au doute, au moyen de repères raisonnés, et en étant lesté par un certain rapport au passé, hein, le passé opprimé, le passé des opprimés. Mais sans jamais croire, disons, comme parfois dans la logique des Lumières, à une maîtrise définitive, à une connaissance totale, toujours en étant confrontant à l'aléatoire et à l'incertitude. Il explique bien ça dans un livre de 97 qui s'appelle « Le Paris mélancolique », dans la ferme certitude de l'incertitude, il affronte la tyrannie du doute sans pourtant s'en défaire. Il affronte la tyrannie du doute sans pourtant s'en défaire. Mais Ben Saïd, en interprétant Benjamin, va le déplacer aussi de manière assez significative, en l'orientant en fait davantage vers l'action présente. On peut dire que ce n'est pas sans rapport avec le fait que Ben Saïd, qui était un militant, a été davantage un homme d'action que Benjamin, qui était davantage un intellectuel classique. Et Ben Saïd va ainsi accentuer dans sa lecture de Benjamin la place de l'action présente dans cette nouvelle alliance entre le passé et l'avenir. On pourrait dire qu'entre les ressources du passé et les possibilités de l'avenir, de nouveaux passages peuvent être forcés politiquement par une praxis présente. Alors, ce déplacement est tout particulièrement travaillé dans un texte qui s'appelle « Utopie et messianisme, Bloor, Benjamin et le sens du virtuel » qui est un texte de 1995. En fait, dans ce texte, Ben Saïd va comparer deux choses. Un des grands penseurs de l'utopie, qui est aussi un marxiste hérétique allemand, Ernst Bloch, hein, l'auteur du principe espérance, et puis la pensée messianique de Benjamin, il va comparer les deux. Et il va pencher d'une certaine façon en partie pour Benjamin contre Bloor. Ces deux philosophes marxistes hétérodoxes, Benjamin et Bloor, se révèlent souvent proches par leur ouverture à des possibles nouveaux. Des possibles qui paraissent toujours impossibles dans la définition dominante de l'ordre. Bon. Donc il y a une ouverture sur les possibles dans l'avenir. Bon. Mais cependant, nous dit Ben Saïd, chez Bloor, le futur demeure la catégorie dominante. C'est-à-dire que dans la pensée utopique, le futur est primordial. On s'inscrit encore dans la logique progressiste plus classique. Alors que, nous dit Ben Saïd, pour Benjamin, au contraire, chaque présent est chargé d'une mission rédemptrice. Chaque présent est chargé d'une mission rédemptrice. Et dans la logique révolutionnaire de Ben Saïd, je cite encore, le présent et lui seul commande le faisceau des peut-être. Ce qui s'offre à nous, c'est des peut-être, et l'action est confrontée à ces peut-être en utilisant, disons, des ressources aussi puisées dans le passé, c'est-à-dire dans la tradition des opprimés. Donc il s'agit en fait de saisir l'occasion ici et maintenant, en s'appuyant sur le passé pour ouvrir un autre avenir. Et finalement, l'action présente devient un élément central. Je cite encore le pari mélancolique, « Passé et avenir sont remis en jeu dans le champ stratégique du présent. » Passé et avenir sont remis en jeu dans le champ stratégique du présent. On a là, donc, d'une certaine façon, une plus grande importance du présent que chez Benjamin dans la lecture qu'il en fait, et le présent même sous la catégorie de l'action présente. Hein. Mais ce présent n'a rien à voir avec le présentisme analysé par Hartog. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'enfermement dans une sorte de présent autosuffisant, qui serait déconnecté à la fois des ressources du passé et de l'ouverture vers l'avenir. Donc on ne tombe pas dans le présentisme, mais pourtant on réinvestit l'action présente comme lieu central, d'une certaine façon. L'action présente devient le lieu central, mais en connexion avec nouvelle, avec le passé et avec l'avenir. Donc il ne s'agit pas en fait de sacrifier le présent à l'avenir ou le présent au passé, il s'agit de refaire de l'action présente la catégorie centrale ou de faire de l'action présente la catégorie centrale en lien avec le passé et avec l'avenir. Un avenir qui pourrait être inédit. Alors, et ici, chez Ben Saïd, l'événement révolutionnaire va croiser l'événement amoureux. Je cite un passage de son Walter Benjamin, « Dans la rencontre amoureuse des regards, dans la fulgurance de l'événement, l'événement révolutionnaire, l'infiniment petit domine l'infiniment grand, l'éphémère capture l'éternité. » C'est intéressant ici que la philosophie politique radicale de Ben Saïd rejoint d'une certaine manière la sociologie du quotidien de Kaufmann. Ce sont deux plans de connaissances différents, mais qui se rejoignent ici dans le croisement entre l'événement amoureux et des événements, disons, plus qui peuvent être plus collectifs. Voilà donc ce que le parcours que j'ai essayé de tenir aujourd'hui, toujours dans cet état intellectuel, moral et politique de la gauche en France, donc, en essayant de le voir aujourd'hui sous l'angle des visions de l'histoire et des défis que se posent les visions de l'histoire. Et puis j'ai essayé de déboucher peut-être un peu plus que la semaine dernière sur des pistes alternatives. La semaine prochaine, on rentrera davantage dans le vif, disons, politique, hein, qu'avec la gauche est-elle en état de mort cérébrale. Et maintenant, disons, on peut en tout cas commencer la discussion autour de cette question des conceptions de l'histoire dans notre débat. Voilà.